VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, l'armée congolaise a bouclé ce jeudi plusieurs quartiers de Lubumbashi, la grande métropole du Sud-Est, où elle a procédé à des arrestations massives de jeunes de sexe masculin. Des opérations de ratissage sont en cours. Les détails avec notre correspondant à Lubumbashi, Narval Mabila.
Après le départ en débandade du gouverneur Jean-Claude Kazembe Moussonda et sa délégation du gouvernement provincial au quartier Kisanga le mercredi, où les armes ont retenti en faisant des morts et des blessés, le bouclage du quartier Kisanga, Katuba Kananga, Katuba Mbujimai, a été imposé ce jeudi matin par l'armée. Tous les jeunes, sans distinction, sont arrêtés maison par maison. Selon les autorités provinciales, on chercherait les armes qui circulent dans ces quartiers. Entre-temps, certains jeunes seraient en cavale. Pendant ce temps, les crépitements des balles sont au rendez-vous vers les quartiers Kisanga. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
À Lissala, dans le nord-ouest du pays, le gourou d'une secte, Wami Néné, s'est autoproclamé président de la RDC le 20 décembre, date de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Un affrontement s'en est suivi entre ses partisans et la police. Bilan, 14 miliciens abattus et 3 policiers tués. La situation est revenue au calme ce jeudi matin, d'après les autorités locales. Située sur le fleuve Congo, en pleine forêt équatoriale, à environ 1000 km au nord-est de Kinshasa, Lissala est le chef-lieu de la province de la Mongala. RDC, toujours des affrontements entre des milices Hutu et Nandé dans la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, ont coûté la vie à 17 civils et à un policier. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'armée congolaise. Certaines victimes ont été tuées par balles et d'autres à l'aide de machettes, a précisé le capitaine Guillaume Djike. Les combats ont opposé la milice Nandé Maïmaï Mazembe à des combattants Hutu Nyatura, a déclaré un militant local. Et toujours concernant les violences en RDC, ce sont au moins 34 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations anti-Kabila dans le pays, d'après l'Organisation de défense des droits humains Human Rights Watch. Ida Sawyer, directrice de cette ONG pour l'Afrique centrale, a précisé sur son compte Twitter que tous les décès s'étaient produits lors des premières manifestations mardi, exigeant le départ du pouvoir du président Kabila, dont le mandat est arrivé à terme. Human Rights Watch procède à des vérifications concernant d'autres morts, a précisé Ida Sawyer. Le gouvernement congolais, pour sa part, a avancé un bilan de 22 tués, dont un policier. Au plan politique, après plusieurs jours de violences meurtrières en RDC, pouvoir et opposition ont renoué le dialogue sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Les évêques catholiques proposent une solution médiane pour trancher les divergences qui persistent aux négociations directes entre l'opposition, qui avait boycotté le dialogue, et la mouvance présidentielle, ainsi que les opposants signataires de l'accord du 18 octobre. Georges Kapiamba, l'un des 16 membres retenus dans la commission restreinte des travaux, donne des détails sur les discussions.
Globalement, il y a eu quand même des avancées, sans entrer dans tous les moindres détails.
Mais il y avait des divergences jusqu'à ce que les travaux soient suspendus. Mais qu'est-ce qui a changé depuis?
Ayant entendu les uns et les autres, ont promis de faire une proposition devant prendre en compte le point de vue de chacune des parties et à leur proposant des solutions médianes.
Est-ce que c'est déjà là les plans B dont ont parlé les évêques?
Bon, moi, je n'avais jamais entendu parler des plans A et B. Je vous fais juste un compte rendu de la manière dont les choses se sont déroulées.
Si les évêques doivent trancher, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à vous entendre?
Non, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des divergences, même une seule, il peut toujours faire intervenir le médiateur, et c'est ça leur travail, de prendre les divergences en main et proposer aux parties une solution de sortie.
Qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que le point qui opposait les partis, c'était entre autres l'avenir du président Joseph Kabila, mais aussi les limites de son pouvoir.
Je ne peux rien vous dire jusqu'ici. Attendons voir ce que sera le contenu de la proposition que les Québécois vont faire demain.
Georges Kapiamba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice aux négociations directes conduites par les évêques catholiques à Kinshasa. Il était joint par Eddy Issango. La situation en RDC est suivie de près dans la région, notamment au Congo-Brazzaville voisin, où les opposants du président Denis Sassou Nguesso espèrent qu'une réussite du processus démocratique à Kinshasa aura des effets positifs à Brazzaville. Marc Mapingu est porte-parole à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, aujourd'hui en prison. Voici sa perception de la crise en RDC.
Nous sommes tristes que notre dossier ne soit pas effectivement vu de la même manière que certains dossiers. Mais ce qui nous encourage au moins, c'est que le peuple du Congo démocratique qui réclame la liberté et toutes ces générations qui ont d'autres attentes soient accompagnées justement par cette communauté internationale. C'est tout notre espoir. Et nous estimons qu'il y a un pont. Il y a un artiste congolais qui, à l'époque, parlait du pont sur le Congo. Nous estimons tout simplement que si demain, les démocrates du Congo démocratique arrivent à terrasser la dictature d'une manière ou d'une autre, mais qu'en traversant le Congo, donc sur ce pont du Congo, bien sûr, on fera tomber aussi une autre dictature qui sévit et qui fait mal aujourd'hui à tous les Congolais et à tous ceux qui croient à la démocratie.
Marc Mapingu, porte-parole à l'étranger du général Mokoko, qui est en prison au Congo-Brazzaville.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité en Afrique de l'Ouest. Au Mali, un gendarme a été tué et un autre blessé dans l'attaque d'un poste de gendarmerie à Saï, dans le cercle de Massina. Cette zone de la région de Ségou est le fief d'Amadou Koufa et de ses hommes. Le point avec notre correspondant Bamako, Kassim Traoré.
C'est aux environs de 17h que des assaillants au nombre de 6 sur des motos se sont dirigés vers la brigade de la gendarmerie de Saï, cercle de Massina. Ils ont immédiatement ouvert le feu sur deux agents présents, tuant l'un et blessant grièvement l'autre, avant de repartir comme ils étaient venus. Selon le maire de la localité, en compagnie d'une délégation, ils étaient venus à Bamako pour signaler aux autorités en charge de la sécurité la présence dans la zone de l'interfleuve des djihadistes se réclamant du prédicateur Amadou Koufa. A rappeler que ces djihadistes ne sont pas à leur premier forfait. Ils ont régulièrement attaqué la foire hebdomadaire de Matoumo, les villages de Si et de Tionche, entre autres. Avant cette attaque, les éléments de la DGC malienne ont mis la main sur deux lieutenants d'Amadou Koufa, le leader du mouvement terroriste Ansardine du Massina. C'était le dimanche dernier, dans une mosquée de Bamako à Banankabougou. Il s'agit de Boubacar Cissé alias Bouri, une quarantaine d'années, marié et père de 10 enfants. Il est commerçant domicilié à Mopti. Il est l'un des intimes du djihadiste Amadou Koufa. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, l'armée dit avoir libéré 1886 civils emprisonnés par Boko Haram et capturé plus de 500 combattants de la secte djihadiste au cours de la semaine écoulée dans la forêt de Sambisa. Sambisa est le bastion du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Actualité américaine, le dialogue entre la Russie et les États-Unis est gelé à presque tous les niveaux, a affirmé mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que les relations entre les deux pays traversent la pire crise depuis la fin de la guerre froide. Le point avec Gabi Dorsil.
Deux dossiers constituent les principales pierres d'achoppement entre Washington et Moscou, le conflit syrien et la crise ukrainienne. Les Américains et leurs alliés n'ont toujours pas digéré l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien présumé de la Russie aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. En Syrie, la crise d'Alep Est a mis en lumière l'ampleur des désaccords entre les deux pays. Mais si Moscou qualifie le dialogue comme étant au point mort, le département d'État souligne que l'engagement diplomatique à l'égard de la Russie tenait toujours sur un grand nombre de questions, notamment sur le dossier syrien, pour répéter le porte-parole John Kirby. Le secrétaire d'État John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus par téléphone à 3 reprises depuis le début du mois, mais sans succès. « Nous ne nous communiquons pas ou réduisons au minimum les contacts », a dit le porte-parole du Kremlin. Et ce nouveau dossier de piratage électronique pour influencer l'issue de la présidentielle américaine du 8 novembre n'est pas pour arranger les choses. En attendant, bien sûr, que le pouvoir change de main à Washington le 20 janvier, puisque Donald Trump et Vladimir Poutine ont tous deux exprimé l'espoir d'un dialogue constructif.
Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.